La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Ma femme m'a demandé début janvier de terminer Cendrillon pour le printemps. Il me restait trop de pages à écrire, trop de scènes à mettre en place pour que cet objectif me paraisse réaliste. Mais elle avait besoin d'inscrire ses forces dans un combat conjoint. Tu te bats avec ton roman, je me bats contre le cancer. On fait ça tous les deux, ensemble, côte à côte, l'un avec l'autre. Et en septembre, je suis guéri et toi tu sors ton livre. Et après, on passe à autre chose. J'en ai besoin, écris, termine, sors Cendrillon en septembre. J'ai travaillé pendant 3 mois, 10 ou 12 heures par jour, sans fatigue, porté par un élan inouï. Rien ne pouvait m'arrêter. Elle m'a donné la force d'écrire. Je lui ai donné la force de guérir. Elle a été ma force et j'ai été la sienne. C'est l'expérience la plus hallucinante que j'ai jamais vécue. Moi, au 6e étage de notre immeuble, dans une chambre de bonne, ma femme au 4e dans notre appartement, les enfants à l'école. J'ai écrit la moitié des 600 pages de Cendrillon, c'est-à-dire environ 600 000 signes, en d'autres termes 400 feuillets en l'espace de 3 mois. Voici ce qu'écrit Eric Reinhardt dans les premières pages du roman qu'il a fait paraître à la rentrée littéraire, La Chambre des Époux. Ces lignes, ce roman bref tout entier, à travers la subtile et si musicale mécanique de sa composition, pourraient, à lui seul, au même titre mais différemment que Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal, contenir ce qui, aux yeux du critique Alexandre Geffen, semble caractériser la littérature française de ce début du XXIe siècle. Un souci littéraire du soin, ce que l'on pourrait appeler une thérapeutique littéraire. Alexandre Geffen et Eric Reinhardt sont aujourd'hui mes invités à la suite dans les idées. Eric Reinhardt, que nous retrouverons dans la deuxième partie de cette émission, dans un dialogue avec vous, Alexandre Geffen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous travaillez sur la littérature française contemporaine et vous faites paraître un livre dont le titre résonne avec ce roman de Maëlys de Kerangal que je citais, « Réparer ». Le monde, la littérature française face au XXIe siècle, il paraît dans la collection des essais chez José Corti. Alors, vous essayez dans ce livre, et le pari est audacieux, d'abord d'écrire une histoire du XXIe siècle, on n'en est qu'au tout début, et ensuite de regarder très large, au fond, dans une production littéraire contemporaine pour tenter, au-delà de toutes les différences qui séparent grand nombre de titres que vous considérez, ce qui les rassemble et trouver un prisme commun, et ce prisme, sans qu'il s'agisse de réduire tous ces livres à cette question, vous êtes apparu assez immédiatement, j'imagine, comme celui du soin, celui du souci littéraire, la manière qu'a la littérature aujourd'hui de vouloir prendre soin du monde pour le réparer, Alexandre Geffen.
Oui, vous le dites vous-même, c'est un prisme général, je n'entends pas ramener tous les écrivains, certains d'entre eux, je sais pas, Éric Chevillard ne relève absolument pas du soin, j'ai beaucoup d'admiration pour Éric Chevillard, mais je voudrais parler d'un certain nombre d'écrivains, et ils sont nombreux, qui entendent faire du bien, qui entendent faire du bien à eux-mêmes en écrivant, hein, qui déclarent être guéris ou être accompagnés par leur entreprise littéraire, ou qui entendent faire du bien à leurs lecteurs, en proposant une expérience dans laquelle les lecteurs vont se retrouver, ou en donnant voix, hein, je me suis intéressé aux écrivains qui vont au contact, sur le terrain des communautés les plus fragiles, donc en donnant voix aux communautés oubliées, oubliées de la grande littérature, qu'il s'agisse des gens en région, en province, comme c'est le cas par exemple pour des Michon, Bergougnou, qu'il s'agisse d'aller du côté des hôpitaux, des prisons, comme le fait François Bon, qu'il s'agisse d'aller du côté des banlieues aussi.
Alors, vous écrivez ce livre à un moment historique particulier qui correspond à cette production contemporaine, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas replacer ce moment dans une histoire, et ce moment intervient après deux moments, en quelque sorte, qui lui précèdent. Au moins deux, vous les pointez, d'abord des formes d'engagement littéraire dont probablement la figure de Jean-Paul Sartre a pu être l'exemple le plus fameux, un moment sartrien auquel a suivi une forme au contraire de désengagement littéraire très très fort et qui a perduré jusqu'à la fin du XXe siècle, qui continue d'ailleurs de perdurer pour certains écrivains qui en font partie. Vous citiez Chevillard, on pourrait associer le nom de Jean-Philippe Toussaint par exemple à celui-là. Mais s'ouvre un troisième moment, un petit peu en réaction aux deux premiers, qui n'est pas un simple retour vers des formes d'engagement classique de la littérature, mais une autre manière de réengager, au fond, la relation au monde. C'est comme ça que vous percevez ce troisième moment, Alexandre Geffen ?
Oui, alors ces grands récits sont forcément un peu caricaturaux. Mais il est évident que lorsqu'on sort d'une tradition française très, très tournée vers elle-même ou tournée vers la forme, et qu'on voit des écrivains prendre en charge des problèmes aussi lourds que la question éthique d'une grève de cœur, des problèmes aussi lourds que celui du deuil, par exemple, on a une littérature qui veut s'attacher non seulement à idolâtrer une idée du langage, une sorte de divinité littéraire qui d'ailleurs parfois a eu un rapport avec le silence hein, à l'époque de Blanchot et qui pouvait être paralysante, mais beaucoup plus concrètement de prendre des objets précis, d'en parler et d'en parler en lien avec leurs lecteurs.
Alors si on suit, vous citiez Blanchot, Pierre Bourdieu a pu prendre cet exemple comme ce moment au fond d'aboutissement de cette logique de l'art pour l'art qui se constitue au XIXe siècle dans le champ de la peinture, mais qui trouve son avènement littéraire avec une figure comme Blanchot et ce silence blanchotien qui agaçait profondément d'ailleurs Pierre Bourdieu de ce point de vue, tout en ayant défendu l'autonomie de l'art et donc une certaine conception de l'art pour l'art aussi. Donc c'est cette tension qui prend fin pour vous d'une certaine façon dans la littérature avec la manière qu'ont certains écrivains aujourd'hui contemporains de se sentir requis au-delà de ce silence pour produire des descriptions, des récits, des tentatives, de description du monde dans lequel ils habitent.
Le propre de cette littérature, et c'est en cela qu'elle s'oppose clairement à la littérature, par exemple, du nouveau roman, c'est qu'elle vise à être transitive. Elle vise non pas elle-même, mais elle vise à intervenir sur le monde. Ce qui est quelque chose d'assez nouveau, parce que cette intervention sur le monde, ce n'est pas le grand modèle sartrien de révolution, c'est un modèle d'intervention beaucoup plus concret, beaucoup plus modeste, ou du moins dont l'ambition se dit autrement. Et au lieu de vouloir dévoiler la question de la colonisation, les écrivains français vont adresser plus précisément des questions concrètes en allant voir des victimes, comme le fait Didier Damin, qui est en participant, par exemple, à la restitution d'une tête maori, plutôt que de prendre la question avec des généralités, avec des universels un peu écrasants. Et je crois que cet engagement concret d'une politique de proximité fait de la littérature un outil social, un outil sur les consciences, un outil sur les communautés qui me semble particulièrement intéressant à regarder. Alors, on peut avoir une position un peu méprisante à l'égard de cette littérature qui va s'occuper des malades et qui ne se donne comme perspective que de parler aux proches ou qui ne cherche pas à construire quelque chose qui soit absolument subversif, quelque chose qui soit expérimental, mais qui cherche d'abord à communiquer, à interagir, à être prolongé par une guérison, par un mieux vivre. Mais je crois que en dehors de cette position-là, qui serait celle de la littérature restreinte hein, de Pierre Bourdieu, les lecteurs maintenant ont une demande extrêmement forte à l'égard d'une littérature qui non seulement va leur montrer un beau pour lui-même, mais va les aider dans leur expérience de la vie. Et je crois qu'il n'y a rien de déshonorant pour des écrivains de vouloir accompagner des gens dans les expériences de leur vie.
On viendra à la question de l'évaluation par la suite des œuvres, qui est une question qui demeure importante pour la critique sans doute. Mais je voudrais peut-être qu'on s'arrête sur un autre point, parce que ce qui peut paraître surprenant pour un certain nombre de lecteurs qui découvrent votre prisme, ce par quoi vous caractérisez cette littérature contemporaine, c'est que cela va d'une certaine façon, de prime abord, mais peut-être les choses sont-elles plus compliquées, à rebours d'un des lieux communs les plus répandus s'agissant de la littérature contemporaine, qui veut que les écrivains français, contrairement aux écrivains anglo-saxons, n'écrivent que sur eux-mêmes, qu'ils soient obnubilés par leur propre personne. En fait, les deux sont parfaitement compatibles, et c'est ce que vous montrez dans le livre. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut écrire sur soi, y compris être dans des registres autobiographiques ou d'autofiction, et en même temps prendre en charge la réparation du monde, Alexandre Geffen.
Oui, je crois que le constat opposant une littérature américaine qui ferait des grands récits, une littérature française repliée sur lui-même, est complètement faux, complètement désolant. Il n'y a qu'à regarder la magnifique rentrée littéraire où on aurait des grands romans à l'américaine, comme le fait par exemple Ducrozet ou Aline Zeniter. Donc c'est une image d'Épinal qui ne fonctionne absolument plus à l'époque où on peut lire Mathias Hénard, par exemple. Donc ce n'est pas défendable. Et comme vous le dites, il y a peut-être un rapport privilégié de la littérature française au personnel, à l'intime. C'est quand même une littérature qui est très marquée par un Jean-Jacques Rousseau. Mais le retour sur soi est une manière d'adresser le monde. Pierre Michon, qui est peut-être le grand modèle de ce retour au récit avec Les Vies minuscules en 84, est parti d'une écriture personnelle, d'une autobiographie, pour ensuite construire un grand roman néo-lyrique qui va essayer de rendre vie à des identités de cousins de province ou de personnages mineurs oubliés.
Comment vous avez procédé au fond? Vous avez lu au fur et à mesure que des livres sortent, et comment s'est dégagée cette grande tendance, ce prisme dont on parle depuis le début de l'émission? Comment il vous est apparu? Soudainement ou très progressivement, Alexandre Geffen?
C'est apparu soudainement lorsque j'ai vu un roman dont j'ai déjà oublié le nom, qui avait comme bandeau un roman antidépresseur. Je me suis dit, que se passe-t-il? Au même moment paraissaient des essais sur Proust, expliquant comment Proust peut changer votre vie. Au même moment, dans les librairies, des rayons de développement personnel voyaient arriver des romans qui participaient au développement personnel. Je me suis dit, que se passe-t-il? Est-ce que c'est simplement une américanisation ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Et je crois que c'est quelque chose un phénomène plus profond, qui est sans doute un élargissement, une extension du domaine et des pouvoirs de la littérature en dehors de sa sphère restreinte.
Alors, est-ce que vous avez pu, dans cette enquête, d'une certaine façon, que vous avez menée auprès de cette littérature contemporaine, découvrir des éléments de théorisation par certains des auteurs eux-mêmes, voire par des collectifs d'auteurs? À certains moments, vous citez le groupe Inculte, par exemple, qui est l'un des rares groupes de cette littérature contemporaine à avoir produit l'effort, je dirais, d'un regard réflexif sur cette pratique de l'écriture aujourd'hui. Mais y en a-t-il d'autres? Et comment caractériser ce que vous avez lu sous la plume de ce groupe Inculte, par exemple, Alexandre Geffen?
Alors, j'ai beaucoup d'affection pour les Incultes, qui représentent, je crois, à la fois une littérature extrêmement exigeante, extrêmement critique sur elle-même lorsqu'il le faut, et en même temps une littérature qui va effectivement sortir du parisianisme et sortir d'une réflexivité, sortir d'une culture, c'est-à-dire sortir d'un rapport qui serait circulaire à la grande littérature, pour aller en dehors du territoire français avec Mathias Hénard, en dehors des questions strictement personnelles et subjectives, pour faire du sujet un prisme formidable où se reflète l'état du monde, comme chez Arnaud Bertina, ou qui, chez Maïs de Kerangal, pour qui, comme beaucoup de lecteurs, je crois, j'ai beaucoup d'admiration, qui est capable de s'intéresser à un geste aussi extraordinaire que celui de construire un pont, ou que celui de greffer un cœur.
Alors, on a le sentiment, parce que je mentionnais tout à l'heure ce lieu commun qu'on vous avez mis en pièce, qui consiste à penser que la littérature française, à partir d'un certain moment, pourrait se résumer, au fond, à l'autofiction, serait nombriliste. Il arrive encore que des journaux osent publier des articles pour dire ça, encore ces derniers mois. Hein, le poncif est loin d'être passé de mode, d'une certaine façon, dans un certain type de regard médiatique. On pourrait presque faire l'hypothèse que l'avènement d'une nouvelle génération, et prendre l'exemple de ce groupe Inculte en particulier, n'est pas sans rapport avec, non pas la réalité de ce poncif, mais sa réalité sociale, d'une certaine façon, ce discours médiatique, et qu'un certain nombre de jeunes écrivains aient pu, vers la fin du XXe siècle, se sentir requis de se colter le réel, comme on disait. Il y avait un problème avec le réel. La littérature serait trop éloignée, trop intime, ne serait pas capable, pas à même d'enquêter sur les conditions de vie de gens qui sont très différents de, des milieux sociaux dans lesquels évoluent, par exemple, ces écrivains. On peut faire cette hypothèse ?
Oui, je crois. La littérature française au XXe siècle s'est interrogée incessamment et de manière atrocement critique sur le pouvoir du langage à parler du réel. Et je crois qu'elle reprend confiance. Elle reprend confiance. Bien sûr, il ne s'agit pas de dispositifs naïfs. Hein. On en parlera tout à l'heure avec le magnifique récit d'Éric Reinhardt, mais c'est vrai aussi pour les incultes. On est loin de la naïveté consistant à simplement vouloir dévoiler le réel en le retranscrivant. C'est beaucoup plus exigeant, beaucoup plus complexe que ça. Il y a un travail de la forme, un investissement du style, admirable chez Nart, chez Kerangal, etc. Mais ce n'est pas au détriment des questions qui sont posées, au contraire.
Alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur la caractérisation de cette littérature contemporaine. Vous dites que c'est des écrivains qui vont tenter d'aller chercher dans la littérature ce qu'il peut y avoir de spécifique à ce mode de connaissance. Et c'est peut-être en cela que ce moment se distingue d'une forme de littérature engagée plus sartrienne, au fond. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'aller se servir de la littérature pour s'intéresser, par exemple, à des objets qui peuvent être communs à ceux des sociologues, mais les regarder autrement, avec des outils qui ne sont pas les mêmes, et c'est en cela qu'il y a quelque chose de spécifiquement littéraire.
Oui, la littérature française contemporaine travaille avec la sociologie, elle travaille avec l'histoire, elle travaille même avec la géographie, et avec la sociologie, avec Annie Ernaux, avec l'histoire, avec des gens comme Philippe Artière ou Pierre Michon, avec les territoires et des gens comme Philippe Vassé. Mais elle va arriver là où les récits des sciences sociales sont obligés de se taire. Patrick Modiano va raconter l'histoire de Dora Bruder parce qu'il n'a comme document qu'un nom sur une liste. Annie Ernaux va sauver la mémoire culturelle et sociologique parce qu'elle va aller du côté des détails, du côté de la dimension concrète de l'expérience, de la manière dont les choses sont faites, du tissu des choses, des mots qui ont été employés dans son histoire culturelle. Et on pourrait multiplier les exemples. Je crois que la littérature vient se définir comme ce qui ne peut être dit que par la littérature. Alors c'est peut-être une définition négative, mais il y a beaucoup de choses qui ne peuvent être dites que par littérature. Quelle science sociale, quel discours médical pourra raconter l'expérience de ces infirmiers qui, après une grève de cœur, rentrent chez eux? Qui peut parler de la méditation qu'ils peuvent avoir à cette heure-là du jour? Je crois qu'il n'y a que la finesse de la littérature qui nous permet d'avoir ces expériences de pensée. La littérature intervient pour nous parler d'expériences limites lorsqu'elle va s'intéresser au mal et nous projeter par déplacement nos coordonnées dans la lecture, dans la manière dont un criminel va agir. Mais plus largement, en dehors de ces exemples les plus troublants, la littérature nous équipe, nous aide à nous projeter dans autrui. Par empathie, elle nous permet de sentir ce que peut-être ces médecins, ces infirmiers dans l'hôpital de Maïs de Kerangal ont ressenti.
Alors là encore, il ne faudrait pas tomber dans une forme de regard un peu manichéen qui signifierait que parce que ces écrivains chercheraient ce qu'il y a de plus spécifique à la littérature, ils auraient besoin de tourner le dos aux sciences humaines et sociales. Je pense qu'on est, et sans doute vous le voyez depuis la position que vous occupez, Alexandre Egefen, puisque vous êtes quelqu'un qui a les deux pieds dans les sciences humaines et sociales et qui travaillait sur la littérature. Je pense qu'on est dans un moment où la curiosité réciproque entre littérature et sciences humaines et sociales n'a pas été aussi forte depuis très longtemps, à vrai dire. C'est-à-dire que vous parliez des infirmières de Maïs de Kerangal, mais on pourrait prendre le portrait d'infirmière que François Bégaudeau a écrit pour la série Raconter la vie, initiée par Pierre-Rosan Vallon et Pauline Perretz. C'est probablement l'un des textes les plus forts de cette série, d'ailleurs. Et il y a là une vraie curiosité. On peut réciter un autre nom de quelqu'un qui est venu à différentes reprises dans cette émission et dont vous saluez le travail dans votre livre. C'est Éric Chauvier qui, peut-être plus qu'aucun autre, a tenté de lier sciences sociales, anthropologie et littérature.
Oui, je crois que les rapports entre les sciences humaines et sociales sont désormais apaisés. Les sciences humaines et sociales ont renoncé à un positivisme qui leur ferait voir avec inquiétude la présence, par exemple, de style dans le récit d'un historien. Et d'un autre côté, les écrivains ont cessé de se définir dans un rapport privilégié supérieur à la vérité. Et au lieu de proposer des récits historiques qui viendraient dans une fiction globale se désintéresser du document, se désintéresser du travail de l'historien, elles vont faire l'histoire avec les historiens. Et parfois, certains personnages que j'évoque, personnalités littéraires, sont à la frontière. Des gens comme Philippe Artière, est-il historien, est-il écrivain? Je ne sais pas. Yvan Jablonka, est-il historien, est-il écrivain dans Laetitia? On peut se poser la question.
Alors, ça c'est très intéressant que vous citiez ces deux noms, parce qu'effectivement, on peut, quand on observe les choses, les mettre dans le même sac, en quelque sorte, en disant, voilà, deux historiens. Techniquement, ce sont des historiens l'un et l'autre. L'un est professeur d'histoire, l'autre est directeur de recherche au CNRS, mais ce sont deux historiens professionnels qui sont démangés, en quelque sorte, par la littérature, qui se mettent à produire des livres qui aspirent à une forme de reconnaissance littéraire. L'un en publiant dans la collection Fiction et compagnie, pour Philippe Artière, l'autre en publiant dans une collection plus hybride, peut-être encore, qu'est la librairie du 21e siècle, mais en cherchant une reconnaissance littéraire forte. Et pourtant, l'un et l'autre sont en désaccord total. Philippe Artière a consacré une critique très sévère au livre d'Yvon Jablonka, lui reprochant de brouiller dangereusement les frontières entre la recherche en histoire et la littérature d'autre part, et plaidant pour sa part, pour la part de Philippe Artière, pour la possibilité de faire les deux en parallèle, à condition de savoir toujours précisément ce qu'on est en train de faire.
Oui, alors le débat entre, on ne va pas rejouer ce débat entre Artière et Jablonka, je crois qu'une partie de la...
C'est un débat passionnant,
mais je crois qu'une partie des reproches d'Artière, que je comprends très bien à l'égard de Jablonka, tiennent aussi à la relation à l'objet. La relation d'Artière est une relation distante, dans laquelle l'historien ne se propose pas de se substituer à la voix des objets disparus. Ce que fait Jablonka en prenant la parole pour Laetitia dans une forme d'empathie et de mise en scène qui peut agacer, qui peut gêner l'historien. Artière, lui, laisse parler, fait parler le monde, fait parler l'histoire. Et je crois que on a deux méthodes qui sont quand même profondément différentes.
Alors ce qui frappe, au fond, c'est peut-être la réflexivité différente qu'il y a d'un écrivain à l'autre par rapport à cette idée de réparer le monde. Certains sont peut-être plus naïfs que d'autres, ou quand ils sont distants ou réflexifs par rapport à cette démarche, ils peuvent l'être sur un mode peut-être un peu cynique, de pause pour... Je prendrai l'exemple, mais c'est un jugement subjectif, du roman d'Emmanuel Carrère à propos du tsunami, que personnellement j'ai lu comme quelque chose d'assez problématique dans le rapport empathique, entre guillemets, avec des personnages. Et puis, inversement, d'autres peuvent pousser la réflexion réflexive très loin. Et vous faites une analyse brève, mais que j'ai trouvée très intéressante, du dernier roman publié l'an dernier par Philippe Vasset, La Légende, qui, dans sa série de portraits de saints et la manière dont l'Église catholique va produire la légende et produire ces vies de saints, au fond, propose de regarder ce qui est en train de se passer dans la littérature et propose de lire autrement, par exemple, certains livres de Pierre Michon, Alexandre Geffen.
Oui, alors, Emmanuel Carrère, en tout cas, donne des gages d'humanité, de présence, de soins. Il nous explique comment désormais il s'intéresse beaucoup plus à ce qui le fait ressembler aux autres qu'à ce qui l'en différencie. Et il manifeste une attention fine, une manière de faire taire son moi au profit de la parole de ceux pour qui il va témoigner. En revanche, vous avez raison, des gens comme Philippe Vasset ou des gens comme Philippe Forest, dans la manière dont il part du deuil, par exemple, mènent une réflexion beaucoup plus critique, beaucoup plus traversée d'une ironie à l'égard d'une idée de littérature qui viendrait faire du bien, qui viendrait colmater les blessures de l'histoire ou colmater la violence du deuil. Pour eux, il faut toujours interroger cette capacité du langage et ne pas se laisser entraîner entraîner vers quelque chose qui remplacerait l'action politique, qui remplacerait la réelle présence. Et je crois que cette réflexivité doit être aussi écoutée. Il ne faudrait pas tomber dans l'idée d'une littérature qui viendrait simplement se substituer à l'action politique de terrain, qui viendrait faire du beau à partir du malheur en considérant qu'il suffit qu'elle pose son regard pour effacer le malheur. La littérature n'efface pas le malheur et, comme le dit magnifiquement Forest, elle ne répare rien du désastre de vivre.
Alors, en prenant ces deux exemples et en affirmant mon point de vue subjectif, ma préférence au type de démarche de Philippe Vasset plutôt qu'à celle d'Emmanuel Carrère, j'ai fait quelque chose que vous gardez de faire dans votre livre. J'ai été frappé par ça. Vous travaillez sur l'empathie et au fond, vous êtes assez peu empathique d'une certaine façon, mais pas non plus inversement critique à l'égard de la plupart des noms propres que vous citez. Est-ce que c'est vous avez besoin, au fond, de cette distance clinique, de ce regard assez froid pour pouvoir brasser tout ce corpus. Quelle est votre relation plus personnelle à tous ces textes, Alexandre Geffen?
La gêne et l'admiration à la fois parfois. Imaginez la situation des écrivains et la situation des universitaires. Elle a changé. Quand vous êtes écrivain et que vous avez des lecteurs qui reviennent vers vous en disant « Vous nous avez aidé à aller mieux. Qu'est-ce que votre livre nous a fait du bien ?» Les écrivains peuvent s'en agacer en disant « Mais on n'a pas vu la plume qui est la mienne, l'invention formelle qui est la mienne. » Pour un universitaire qui s'est construit dans une culture intellectuelle dans laquelle la littérature était subversive, elle était un problème, elle devait toujours être un problème, elle avait un rapport privilégié avec le mal, avoir affaire avec des discours pour lesquels la littérature a une utilité sociale, a des modes d'action psychologique forts. On voit même apparaître des discours médiatiques dans lesquels la littérature serait censée vous permettre de vivre plus longtemps ou de devenir vraiment meilleur. Eh bien, prendre en charge ces discours qui sont très très nouveaux dans notre culture intellectuelle française ne peut se faire, je crois, qu'avec un tout petit peu de distance.
Alors effectivement, dans la tradition française, parce que on n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous insistez bien et à raison, à mon sens aussi, sur ce que l'apport de la découverte, au fond, de la tradition pragmatiste américaine a pu produire dans ce type de rapport mélioriste aux œuvres, avec la découverte du travail de Stanley Cavell, le rôle important que Sandra Logier a joué de ce point de vue, mais aussi la lecture des livres de Richard Schusterman en France, qui peut-être pour certains a ouvert les yeux vers ce rapport très très différent de la figure romantique de l'artiste au fond, et qui vient décomplexer un rapport non pas de développement personnel, mais tout simplement plus quotidien, je dirais, à la fréquentation de l'art. Alors, ce dialogue, on va l'organiser entre vous et l'un des romanciers que vous citez d'ailleurs parfois dans Réparer le monde, c'était Eric Reinhardt. Mais avant ça, on écoute un extrait, c'est le dernier titre du deuxième album d'une chanteuse du Tennessee, Julian Baker.
Dans les idées, Sylvain Bourmeau.
J'ai ouvert cette émission en lisant un extrait des premières pages de La Chambre des Époux d'Eric Reinhardt, un roman sorti à la fin du mois d'août, un roman qu'Alexandre Geffen, mais il nous le dira, pourra sans doute considérer à beaucoup d'égards comme assez emblématique d'un mouvement large qu'il tente de décrire dans Réparer le monde, cet essai dont nous parlons depuis le début de la suite dans les idées. Eric Reinhardt, j'imagine que c'est pas forcément toujours confortable de se trouver réduit à une thématique quand on est romancier et qu'on cherche dans un roman relativement bref à faire tenir ensemble beaucoup d'autres choses que simplement ce point de vue-là.
Et en même temps, je me reconnais complètement dans ce que vient de dire Alexandre. Et j'ai l'impression que c'est ce que je fais depuis mon roman Cendrillon. Je ne pense pas qu'il faille, quand on est écrivain, assigner à la littérature et à son propre travail aucun rôle particulier, aucune utilité, aucune vertu, je sais pas, thérapeutique ou curative. Je ne le fais pas pour faire du bien, mais je trouve que c'est ce qui irrigue de l'intérieur le livre. Peut-être qu'aussi, et je pense à Cendrillon, je n'allais pas très bien au moment où j'ai commencé ce livre et j'avais besoin de clarifier mon rapport au réel, qui était conflictuel et problématique. J'avais 40 ans et j'ai éprouvé le besoin très fort de mettre en système, un système poétique, mon rapport au réel.
Et ce sera d'ailleurs un des mots du roman suivant, le système Victoria, qui poursuivra ce programme.
Voilà. C'est-à-dire en essayant d'examiner de quelle façon mon intimité, ma subjectivité, ce qui fait ma singularité, peut s'articuler au monde tel qu'il est, dans toute sa sauvagerie et son aridité, et voilà, et le problème qu'il pose. Donc ça m'a amené à considérer des choses comme le capitalisme financier, les questions du déterminisme social, de la ségrégation sociale, de l'âpreté au gain. Donc c'était une sorte de manifeste esthétique, existentiel, intime. Et en faisant ça, pour voir comment on pouvait habiter le monde aujourd'hui, et comme le dit Rancière, habiter dans le monde de l'ennemi avec la position ambiguë de celui qui combat l'ordre dominant, tout en étant capable de créer un lieu à l'écart qui échappe à ses lois. Et en fait, Cendrillon était conçu par moi pour être un lieu à l'écart, mais dans le monde de l'ennemi, que je décris amplement, et qui échappe à ses lois, et avec l'objectif, l'idée, que d'autres se retrouvent avec moi dans ce lieu, pour créer une sorte de communauté. J'ai conçu Cendrillon comme un cri de ralliement. Et ce qui est merveilleux avec le cri de ralliement, c'est quand on se sent seul et qu'on a envie de ne plus l'être et que puissent se réunir autour de soi des gens qui partagent la même vision du monde, eh bien on se retrouve au milieu d'une communauté où l'écrivain disparaît. C'est-à-dire que c'est pas du narcissisme. En fait, la façon dont l'écrivain peut s'intéresser à lui, c'est une façon de se connecter à d'autres qui se sentent aussi seuls, de constituer une communauté. Et à partir de là, l'écrivain, il se retrouve parmi la multitude de ceux qui constituent cette communauté. Et de ce point de vue-là, je pense que quand un livre apparaît de cette façon-là à un lecteur, lorsqu'il peut être secouru, le lecteur, par le livre, dans L'amour et les forêts, il y a un long passage où je parle du rapport de mon héroïne Bénédicte Ombrodane au livre qu'elle aime. J'utilise le mot de « secourir », qui dans le fond est assez proche de celui de réparer, puisque Bénédicte Ombrodane, je la décris comme une femme qui attend des livres qu'elle lit, qui la secourt, et c'est un peu comme si, davantage qu'elle n'allait vers les livres, elle avait le sentiment que les livres venaient vers elle comme en détournant leur route pour la secourir et l'abriter dans une chaloupe. Voilà. Et de ce point de vue-là, voilà, il me semble que ce que je fais depuis Cendrillon, c'est exactement ça, mais implicitement, c'est-à-dire sans assigner à mes livres ce rôle précis.
Alexandre Geffen.
Oui, je crois que les formes de secours que propose Eric Reinhardt sont multiples. C'est un secours à soi-même. Effectivement, vous n'alliez pas bien, vous avez écrit et vous avez donné une forme plus universelle à votre souffrance. Dans La Chambre des Époux, votre femme n'allait pas bien et vous avez accompagné à votre manière, avec quelque chose aussi, peut-être une magie, comme si la réussite du livre allait favoriser la guérison. Vous évoquez le fait que vous serez lu par des lecteurs qui ont peut-être eux aussi cette expérience d'avoir traversé cette maladie, que peut-être votre récit fera secours. Et dernière forme de secours, moi qui m'a beaucoup ému, comme si la manière miraculeuse dont votre épouse avait survécu ne pouvait pas enclore l'expérience, ne pouvait pas la réduire à une positivité, vous avez mis un tombeau à l'intérieur du récit, dans lequel c'est peut-être encore une autre forme de secours de l'écrivain qui est en scène, qui est un secours beaucoup plus mémoriel, dans lequel l'écriture va accompagner dans la mort. Et de ce point de vue-là, je trouve que le roman reflète une grande partie des tendances d'attention au deuil, d'attention à la maladie, d'attention à la construction de soi-même. On retrouve tout ça, je trouve, dans La Chambre des Époux.
Tout à fait.
Éric Reinhart, vous disiez, je n'ai pas de programme ou je n'ai pas de visée thérapeutique quand j'écris, mais pour être conscient de ce que vous avez décrit tout à l'heure, il a fallu une situation historique particulière qui est celle qui vous a fait terminer plus rapidement que prévu et dans un état second Cendrillon, et qui est aussi le point de départ de La Chambre des Époux, ce livre qui revient sur ce sujet dont nous parlons aujourd'hui, qui est le soin, qui est la vertu thérapeutique de la littérature, entendue comme tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus ambitieux et vaste, et qui n'a rien à voir, au fond, avec les livres de développement personnel. Non. Il ne s'agit pas du tout de ça. Mais j'aurais peut-être que vous réagissiez aussi au dernier point d'Alexandre Geffen sur la mise en abîme de La Chambre des Époux, parce que c'est lié aussi à un souci de forme. Ce livre frappe d'abord, enfin il m'a frappé et ému d'abord en raison de l'audace de sa construction musicale.
Oui, je n'aurais pas écrit ce livre si ça avait dû être un témoignage. Donc j'ai écrit ce livre parce qu'une idée de forme, comme toujours, lorsque je commence un livre, m'était apparue, à savoir d'organiser la levée au milieu de La Chambre des Époux d'une sorte de livre fantôme, de brume, de fiction, de songe, de fiction. C'est-à-dire que je raconte dans ce livre un livre que je n'ai pas écrit et que je n'écrirai jamais. Et décrivant à mon lecteur ce livre et lui narrant les conditions dans lesquelles j'aurais pu l'écrire, eh bien, le livre apparaît. Je le décris. Je décris ce qu'aurait été ce livre si je l'avais écrit. Mais je ne l'ai pas écrit, je n'écrirai jamais. Et ce faisant, ce livre apparaît sous les yeux du lecteur. Et c'était pour moi une façon d'approcher, et la seule sans doute, une forme d'indicible de cette expérience de la mort que j'ai frôlée au cœur de la maladie de ma femme, et cette sorte de traumatisme et d'inconsolabilité que j'en ai retiré. Je ne pouvais pas l'aborder de front à travers un roman, à travers une fiction, mais je ne pouvais le faire qu'à travers... Alors, j'adore ce que vous avez dit sur La Chambre mortuaire, parce que je parle de songe, de fiction. Voilà. Il s'agissait pour moi plus que de donner à lire un livre, que de permettre à mon lecteur de traverser, comme on traverse une brume, un brouillard, un songe de roman, que le lecteur s'en imprègne et qu'il en retire les mêmes émotions qu'il retire d'ordinaire de la lecture d'une fiction, sauf que ce livre n'existe pas et n'existera jamais. Donc au cœur, en effet, de La Chambre des Époux, il y a cette chambre vide, cette chambre mortuaire. Moi, je suis fasciné par l'architecture. Je me nourris énormément d'art plastique, de spectacles vivants, d'architecture. Et mon grand rêve et fantasme d'artiste, parce que je me définis aussi souvent comme un artiste autant que comme un écrivain, c'était de créer au cœur de La Chambre des Époux un espace vide, presque comme une pièce de Tadewando avec de la lumière qui entrerait comme ça par des vitraux. Et voilà, c'est ça que j'ai organisé par l'écriture, c'est-à-dire qu'au cœur de ce livre, il y a ce lieu sacré, vide, simplement de la lumière, et qui est voilà cette mort de ma femme, que je n'ai pas vécue puisqu'elle n'est pas morte, mais que je vis par procuration à travers la mort d'une autre, mais que je ne pouvais pas mettre en scène à travers un roman, mais juste à travers presque l'ombre portée d'un roman sur ma conscience.
Ce qui est très intéressant, Alexandre Geffen, dans ce que vient d'expliquer Éric Reinhart, c'est qu'au fond, il cherche à atteindre cette réparation du monde, à toucher ce lecteur, en créant un dispositif expérientiel. Et ça nous ramène à cette conception pragmatique de l'art et de la littérature, de l'art comme expérience, pour reprendre le titre d'un livre très important de John Dewey que vous citez plusieurs fois dans votre essai, Alexandre Geffen.
Oui, dans le livre d'Éric Reynard, il y a un tombeau, comme dans beaucoup de grandes œuvres littéraires, hein, qui ont souvent un tombeau explicite ou un tombeau secret, et cette volonté de créer cet espace de résurrection et d'accompagnement dans la mort est une dimension très forte de la littérature française contemporaine. Hein. Et comme vous le disiez, il y a une expérience, et l'expérience consistant à faire vivre au lecteur à la fois la vie et la mort par ce dispositif, à la fois l'expérience dite par le témoignage directement, et affabulée et fictionnalisée, est beaucoup plus forte que quelque chose qui serait simplement un récit plat, parce que elle nous permet d'explorer les possibles, elle nous permet d'explorer ce moment sans doute où mort et vie alternées, pirouettées tragiquement. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point ce que vous évoquiez comme l'exigence d'une forme est essentielle. Non pas parce qu'elle va être une forme pour elle-même, mais parce qu'elle va rendre et faire participer le lecteur infiniment plus puissamment, infiniment plus intimement, infiniment plus finement à l'expérience qui est la vôtre.
Je suis tout à fait d'accord et je vais vous dire quelque chose que je dis rarement, mais à peu près une quinzaine de femmes... de lectrices, m'ont dit que L'amour et les forêts leur avaient sauvé la vie. C'est fort. C'est bouleversant. Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. Mais, et d'ailleurs je pense que c'est la chose la plus belle et la plus forte qui puisse arriver à un écrivain, à un artiste, lorsque une personne qui a lu un livre vous dit « Ce livre m'a sauvé la vie ». Évidemment, je n'ai pas écrit « L'amour et les forêts » pour sauver la vie de ceux qui le liraient. Je suis parti d'une révolte par rapport à des expériences comme ça de harcèlement difficile vécu par des femmes. Et j'ai recueilli plusieurs témoignages pour écrire ce livre.
Mais déjà parti d'un souci pour les lectrices, au moins.
Oui, une empathie incroyable. C'est-à-dire, moi je pars souvent, pour écrire mes romans, d'une vraie révolte, une colère, une indignation intime. Cendrillon, c'était aussi l'indignation par rapport au ravage du capitalisme financier que j'avais envie d'élucider. Donc je suis allé enquêter sur le capitalisme financier. Et là, c'était plusieurs personnes, femmes, m'ont raconté leurs expériences intimes, comme ça, de harcèlement conjugal très dur. Et j'ai senti que je devais écrire un livre. Mais ce qui fait que ces lectrices ont été sauvées, secourues et sauvées par L'amour et les forêts, c'est l'expérience littéraire. Et c'est en ça que je pense que... Alors souvent on questionne l'utilité de la littérature et de la fiction aujourd'hui. Pourquoi écrire des romans? Eh bien je pense, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et je partage tout à fait votre point de vue, il y a des choses que seule la littérature peut faire. Il peut y avoir comme ça des choses de saisissement, des fictions dans lesquelles on éprouve une vérité profonde, c'est-à-dire que ces lectrices ont soudain senti qu'elles étaient en effet... comme mon héroïne, en train de dépérir, et que si elle ne réagissait pas, elle pourrait en mourir. Et ça, cette expérience procurée par la littérature et par une forme, parce que en effet, on est habité par ce qu'on est en train de lire, rien ne peut se substituer à ça.
On est obligé de s'arrêter là, j'entends une musique qui monte, c'est celle d'une chambre aussi, c'est ce générique de fin de la chambre d'Isabella. J'en profite pour donner la référence pour une fois qui fait écho à La chambre des époux, le roman d'Éric Reinhardt paru il y a quelques semaines, et puis le livre d'Alexandre Geffen dont nous parlions dans cette suite dans les idées, Réparer le monde, qui paraît aux éditions José Corti, qui est apparu il y a quelques jours. On trouve les références bibliographiques des deux ouvrages sur la page de la suite dans les idées, une page sur laquelle vous pouvez réécouter l'émission autant de fois qu'il vous plaira, sur laquelle aussi vous pouvez vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Donnet. À la technique aujourd'hui, Bernard Laniel. Réalisation, Anne-Laure Chanel. Et dans quelques instants, c'est Christine Bernard que vous retrouvez sur l'antenne de France Culture pour le premier volet cette semaine d'une histoire particulière.